La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous tous ici, dans ce lieu, ce matin, avec tous les enfants qui sont là pour l'éducation biblique. C'est la reprise, les enfants, et nous sommes très très heureux de pouvoir reprendre cette année avec vous, avec toutes vos monitrices qui ont préparé pour vous une belle séance, avec aussi une rencontre cet après-midi avec une association qui va vous parler de choses qui vous concernent tous, qui nous concernent tous, mais peut-être encore plus votre génération. Donc nous aurons la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous parler du climat et de la justice climatique. Donc c'est une séance particulière qui s'inscrit dans les journées européennes du patrimoine, et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir dans ce contexte, dans un thème qui était donc affiché comme patrimoine durable, qui aurait pu être compris comme la préservation du patrimoine bâti, enfin de tout ce que les hommes ont pu créer, et nous l'avons compris aussi dans le sens de durable, avec la question de l'écologie, et nous avions voulu faire une place importante à ce thème avec Stéphane Lavignotte, qui vient donc avec nous ce matin pour nous partager sa parole autour de textes bibliques qu'il a travaillé pour nous ce matin. Nous te remercions d'être là, Stéphane. Et Stéphane vient de la Mission Populaire, et donc il y a des personnes ici qui viennent aussi de la Mission Populaire, qui sont de cette communauté, et donc nous les saluons particulièrement ce matin, et nous saluons tous ceux qui nous regardent au loin et un peu plus près à Paris, et qui attendent avec impatience ce que tu vas partager avec nous. Merci d'être là, Stéphane. Et nous allons maintenant, nous aurons aussi la joie de voir, d'écouter Stéphane sur son livre que nous avons choisi de présenter tout à l'heure à l'issue du culte. Et donc restez surtout après le culte pour écouter cette présentation de livre, et vous aurez envie forcément de lire le livre, et donc vous pourrez l'acheter à la librairie pour le lire tout de suite après. Voilà. Donc n'hésitez pas à rester. Voilà, je vous invite à revenir dans le temps de prière et à nous concentrer ensemble sur ce moment que nous allons vivre ensemble. Vous avez au début des psautiers, les enfants. Les psautiers, ce sont les livres jaunes, pour ceux qui découvrent aujourd'hui. Vous avez au début toute une liturgie avec des petits réponses. Ce sont des chants que nous chantons à chaque fois pour prier en réponse à la prière qui vous est proposée. Donc suivez bien la liturgie et vous allez pouvoir priez tous ensemble, en chantant aussi. Et je vous invite à prendre, pour commencer ce temps de culte, le premier répond qui est dans le psautier, le psaume 8. Et je vous invite à vous lever, les enfants, pour chanter. Et nous louons le Seigneur avec ces paroles du psaume 33. Célébrez le Seigneur avec la lyre, jouez pour lui du luth à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau. Jouez bien de vos instruments pour l'acclamation, car la parole du Seigneur est droite. Toute son œuvre s'accomplit avec constance. Il aime la justice et l'équité. La fidélité du Seigneur remplit la terre. C'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait, par le souffle de sa bouche, toute son armée. Il amoncelle en une masse les eaux de la mer. Il met les abîmes dans des réserves. Que toute la terre craigne le Seigneur. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne. Elle est là. Le Seigneur déjoue les projets des nations. Il contrecarre les pensées des peuples. Les projets du Seigneur tiennent pour toujours et les pensées de son cœur de génération en génération. Nous attendons le Seigneur. Il est notre secours, notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouit en lui, car nous avons mis notre confiance en son nom sacré. Seigneur, que ta fidélité soit sur nous, comme nous t'attendons. Et nous reprenons alors cette fois-ci le psaume 8, mais dans le livre, les enfants, vous allez au début du psautier, vous trouvez le psaume 8, et nous allons chanter ensemble les strophes 1, 3, 5 et 6.
Voilà un chemin que nous propose le Seigneur. Arbres et rameaux, fruits et fleurs, chaque saison, chaque plante m'apporte la douce assurance de ta présence, Seigneur Créateur. Permets-moi de voir dans cette terre la force de vie qui m'échappe. Tourne ta face vers moi dans ce jardin, que ta création y resplendisse. Garde-moi humble dans l'abondance, aimant même du sol fertile. Tu me l'as confié, mais je sais qu'il sera fécondé par ta seule volonté. Je ne suis que l'artisan qui façonne les dons de ta grâce infinie, que je cueille, que je moissonne. Garde-moi innocent de cœur et d'esprit, afin que je ne cherche pas tant à récolter qu'à recevoir, à régner qu'à cultiver, que je ne désire pas tant organiser que contempler la gloire de ton royaume, enfin germée dans ce verger d'olivier. Ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Amen. Nous chantons le répond de la volonté de, après la volonté de Dieu dans les petits papiers au début.
Nous nous présentons devant le Seigneur. Dans le prophète Jérémie, nous lisons « Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes et ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides, confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent, parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos injustices témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Oui, pardonne-nous, Seigneur, nos injustices et nos méchancetés, nos cœurs pleins de contradictions et nos difficultés à suivre ta loi. Amen. Le Seigneur annonce sa grâce sur tous nos manquements. Il est là pour nous encourager à toujours réformer nos comportements. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce. Dans le psaume 66, il est écrit « Dans nos hontes, tu mets ton amour. Dans nos déserts, tu fais pleuvoir ta pluie. Dans nos contradictions, tu mets du courage. » Je vous annonce le pardon du Seigneur. Son amour qui nous accompagne toujours et sans défaut. Ses mains visibles sont le signe de cette grâce invisible, le signe temporaire d'un pardon donné à chaque fois que vous lui faites part de vos difficultés. Le Seigneur nous pardonne et nous aide à repartir ensemble sur quelque chose de nouveau. Chantons notre reconnaissance pour cette foi renouvelée et cette grâce qui est sur nous.
nous confessons notre foi. En Dieu, nous respirons. En Dieu, nous vivons. En Dieu, nous participons à la vie de toute la création. Nous appartenons à Jésus-Christ, la véritable icône de Dieu et du genre humain. En lui, Dieu respire. En lui, Dieu vit. Par lui, nous sommes réconciliés avec nos sœurs et nos frères et avec toute la création. Nous appartenons au Saint-Esprit qui nous donne vie nouvelle et affermit notre foi. Dans l'Esprit, l'amour respire. Dans l'Esprit, la vérité vit. Le souffle de Dieu nous anime sans cesse. En Dieu, nous sommes tous et toutes faits. En Christ, nous sommes tous et toutes sauvés. Dans l'Esprit, nous sommes tous et toutes unis. Amen.
Et nous chantons.
Merci.
Alors, je vais inviter maintenant les enfants à aller avec leur monitrice à la maison presbytérale. Et Agnès Adeline Schaeffer, ma consœur, va leur proposer un culte qui soit adapté à leur âge. Et donc, voilà, vous suivez vos monitrices et Agnès, et vous allez au deuxième étage, salle mono. Alors, pour les catéchumènes, ceux qui souhaitent rester, écouter la prédication de Stéphane, parce que vous pensez que vous pouvez tout à fait vous passionner pour le sujet, restez. Ceux qui pensent que c'était encore un petit peu compliqué, vous allez avec les autres enfants, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est à votre choix. D'accord ? Voilà. Voilà, je voudrais remercier ce matin Aurélien Péter qui est à la tribune d'orgue et cet après-midi, il nous donnera un concert à 17h ici même. Donc je voulais signaler aussi ce beau moment qui se prépare pour cet après-midi et puis dire qu'il est avec nous pour nous accompagner ce matin.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre. Et d'éternité en éternité. Nous lisons d'abord dans Luc, au chapitre 16, les versets 1 à 14. Et c'est là-dessus que portera plus particulièrement la prédication. Il disait aux disciples, « Un homme riche avait un intendant. Celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire l'intendance ? Bêcher ? Je n'en aurai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 battes d'huile, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » ?»« 100 corps de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice pour que, quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande, et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc, vous n'avez pas été digne de confiance avec le mammon injuste, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien? Aucun domestique ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Les pharisiens, amis de l'argent, écoutaient tout cela et tournaient Jésus en dérision. Ensuite, en Amos, au chapitre 8, nous lisons les versets 3 à 6. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, déclaration du Seigneur Dieu. On jettera partout une multitude de cadavres. Silence, l'avidité des marchands. Écoutez, vous qui harcelez le pauvre et qui supprimez les déshérités du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, que nous vendions le grain? Quand le sabbat finira-t-il, que nous ouvrions les sacs de blé? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous fausserons les balances pour tromper. Nous achèterons les petites gens pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons même le déchet du blé. Nous chantons maintenant au psaume 24, les strophes 1, 2 et 3. Nous prions. Seigneur, assèche mon esprit. Assèche-le de ce qui m'assèche. Assèche-le de ce qui me pollue. Assèche-le de ce qui m'inonde et me noie. Donne soif à mon esprit. Donne-lui soif de tes questions, de ton amour, de ta parole. Amen. Est-il anachronique d'utiliser la Bible pour parler d'écologie ? Pour faire une prédication sur le sujet du patrimoine durable, thème de cette journée du patrimoine. Oui, c'est anachronique, car les problèmes de crise climatique, de surproduction de plastique, de pollutions diverses ne se posaient pas à l'époque. À l'époque, l'humain est dominé par la nature et pas l'inverse. Oui, mais après tout, à cette aune-là, on se nourrirait jamais de la Bible pour réfléchir à nos vies, tellement elles sont différentes de l'époque de son écriture. Pourtant, on a été pour ou contre l'esclavage au XVIIIe siècle à coups de versets. On a débattu et certains débattent encore de la pertinence de la contraception ou de l'avortement en s'appuyant sur la Bible. Et quoi de mieux que les textes sur l'idolâtrie de l'Ancien Testament pour parler de l'argent ou des téléphones portables. Dans ce cas précis, dans le texte d'aujourd'hui, il y a quatre lettres qui nous intéressent particulièrement. O-I-K-O, oiko, qu'on retrouve 9 fois en 13 versets. Oiko, cette racine se retrouve aujourd'hui dans écologie, économie, œcuménisme. Dans ce texte, elle sert à dire le gérant, oikonomos, la gestion, oikonomias, ou gérer, oikonomein. Et cela à 7 reprises. 2 fois, ces 4 lettres sont utilisées pour dire la ou les maisons, oikos, oikous. Au cœur de la question écologique, n'y a-t-il pas justement la question de comment nous gérons notre maison terre ou nos maisons écosystèmes? Cette terre et ces écosystèmes que nous ont confiés nos parents, qui nous ont confiés pour que nous les gérions bien, bien les gérer pour nos enfants qui en hériteront. N'est-ce pas une manière de comprendre ce thème du patrimoine durable et donc pas d'anachronisme? Ouf! Dans Le Petit Prince, Saint-Esprit écrit, et c'est bien Saint-Esprit dans Le Petit Prince, c'est pas la sagesse d'un chef indien, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Ce n'est pas anachronique, car si la Bible ne parle pas de la crise écologique actuelle, elle parle de thèmes éternels qui permettent de réfléchir les grandes questions de la vie, comme l'écologie. Donc, comment gérer les biens qui nous ont été confiés? Mais aussi, dans d'autres passages, elle nous parle de notre manière de regarder la nature et le monde en général. On l'a entendu dans tout le début de ce culte avec les psaumes, par exemple. Elle nous parle de nos façons de vivre avec tous les êtres vivants, humains ou non humains, comme les animaux ou les plantes. Elle nous parle du rapport aux idoles que se construisent les humains. Largement donc de quoi penser le capitalisme, le productivisme, la consommation, le technosolutionnisme, la séparation humain-nature. Rajoutez à cela les protestations et la tristesse d'Amos dans le texte du jour, les textes d'Amos qui étaient aussi le moment qui avait inspiré aussi la volonté de Dieu. Ces textes d'Amos donc contre la méchanceté des puissants qui volent les pauvres en truquant les balances, et vous avez tout ce qu'il faut. C'est un autoroute, il y a là une prédication toute faite que vous attendez forcément d'un pasteur de la mission populaire évangélique. Il nous a été confié la gestion de ce bien qu'est la planète. Elle nous a été confiée par Dieu, par l'intermédiaire de nos ancêtres. Si nous volons Dieu, si nous dilapidons ce patrimoine, nous serons réprimandés comme l'est ce gérant mauvais et tricheur. Et si nous gérons mal ce patrimoine, ce serait que trop souvent, nous choisissons le mammon de l'argent plutôt que Dieu. Si nous choisissons le oiko d'économie contre le oiko de l'écologie, le oiko d'économie contre le oiko de nos maisons, que nous avons failli à écouter l'interpellation de la fin du passage, nul domestique ne peut servir de maître, car où il est, il ira l'un et aimera l'autre, etc. Eh bien, nous irons dans l'impasse. On peut pousser jusqu'à parler de l'incompatibilité du système capitaliste avec la sauvegarde de la création. Choisir Dieu plutôt que Mammon, ce serait rejoindre, vous en avez sans doute entendu parler, le mouvement de désertion en cours, au contraire. Choisir Dieu contre Mammon, ce serait rejoindre tous ces jeunes gens très courageux qui préfèrent abandonner une belle carrière que leur prometter une belle école. Ils préfèrent faire ça pour inventer un autre monde, à la fois à l'intérieur et en marge de celui-là, en créant par exemple des fermes de maraîchage, élever des chèvres, faire du pain. Bref, sortir de l'économie capitaliste. Alors ça tient sur le fond biblique, ça tient sur le fond théologique et politique. Et franchement, je défends complètement ce point de vue, il est spontanément le mien, bien plus que ce que je vais vous dire maintenant. Mais voyez-vous, le problème quand on prêche, c'est qu'on prêche le texte biblique et pas ses opinions. Et que souvent, on se lit le texte biblique et on se dit « Ah, ça me prend à rebrousse-poil ». Et pour être honnête, c'est le meilleur moment de la préparation de la prédication. Quand on se dit « Je ne vais pas du tout raconter ce que j'avais prévu. » Alors, raconter quoi d'autre que ce que je pense d'habitude ? Eh bien d'abord, sur le fond politique, pensons-nous que les désertions seraient assez massives ? Pensons-nous que ce monde serait suffisamment, que ce mouvement serait suffisant compte tenu de la puissance de l'argent aujourd'hui dans le monde ? Ensuite, sur le fond théologique, Jésus n'a pas déserté. Il n'est pas allé créer une communauté dans le désert à Qumran, c'était déjà fait. Il n'est pas allé en dehors du monde, même si sa pensée avait des proximités avec les écrits de ceux qui ont déserté le monde pour Qumran. Sur le texte, dans son contexte, si on regarde les trois paraboles qui précèdent, le fils prodigue, la drachme perdue et la brebis perdue, eh bien, il n'est pas question de trouver une position de pur qui nous dégagerait du monde. Il est question de personnes impures qui sont accueillies par Jésus, ce qui provoque les réactions négatives des pharisiens, comme dans le texte qu'on a lu, qui, eux, se croient purs. Le parti pris est celui des impurs qui se posent des questions, pas de ceux qui sont persuadés d'être purs. Et puis surtout, il faut faire avec ces versets 8 et 9 du texte qui sont si gênants, qui font que on appelle ça aussi les paraboles scandaleuses de Jésus. Les versets 8 et 9. Et le maître loua l'économe injuste de ce qu'il avait agi prudemment, car les fils de ce siècle sont plus prudents que les fils de la lumière dans leur manière d'agir envers leur propre génération. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que lorsqu'elles vous manqueront, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Pas pratique, hein, ces versets. Il s'agit d'agir dans un monde impur, en tant qu'individu et communauté humaine imparfaite, avec les moyens qu'on a, y compris s'ils sont scandaleux. Débrouillez-vous avec ça. Car la première facilité à éviter serait de se dire que ceux qui ont les richesses injustes sont les autres. Mais à partir du moment où il n'y a que Dieu et Mammon, toutes nos richesses sont injustes, faisait remarquer Jacques Ellul. Même un pasteur, son argent vient des paroissiens. Les paroissiens ont peut-être acquis leur argent de manière injuste. Je ne dis pas ça pour vous, hein. Un fonctionnaire ou un travailleur social, il a son argent de l'État, qu'il a d'abord de la TVA, impôt très injuste, puisque payé au même pourcentage par les pauvres et les riches. Savez-vous que les transports en commun sont taxés à 10% et le chocolat noir à 5,5%? Je suis consommateur des deux, hein. Sur la question écologique, certes, les 10% les plus riches de la planète émettent 34% du CO2 mondial. Mais presque toutes les populations du Nord, pauvres compris, peut-être pas les SDF quand même, sont dans ces 10% et émettent plus de CO2 que ce à quoi ils auraient droit si on répartissait le CO2 à émettre en fonction du poids démographique pour la planète. Nous sommes donc tous injustes parce que même si on n'a rien, nous sommes dans un système qui est injuste d'un point de vue climatique. Donc ce gérant qui gère mal ce bien qui nous a été confié, c'est chacun de nous. Bien sûr, avec des responsabilités et des efforts à faire en proportion de notre richesse et donc de notre pollution. Et c'est bien là que se situe pour moi le centre du texte. Quels efforts ? Car ce qui me frappe, c'est que notre gérant, dont les éditeurs de la Bible l'appellent suivant les éditions malhonnête, habile ou avisé, notre gérant ne reste pas inactif. Il développe plein d'efforts pour sauver sa peau. Il est accusé de vol, d'avoir mal géré. Il ne s'enfuit pas au loin pour se cacher en laissant tout sur place. Il utilise cette richesse injuste pour préparer demain en se faisant des amis. Le gérant s'en fait des amis en utilisant l'argent, en étant actif avec ses richesses injustes et en les utilisant de deux manières. Mercantile et vile d'un côté et d'une manière subversive de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire ? Mercantile et vile, c'est-à-dire en faisant appel au sens de l'intérêt des personnes et de sa génération, comme toutes les générations. En réduisant leurs dettes vis-à-vis du maître, on se dit en les achetant. Bizarre, se faire des amis en achetant les gens. Manière mercantile et vile. Mais ils s'en fait aussi des amis d'une manière subversive. Pourquoi subversive ? Dans les commentaires, en général, on donne deux interprétations contradictoires à cette façon de réduire les dettes des endettés. La première, la compréhension la plus fréquente, est qu'il réduit les dettes sur le dos du capital que lui a confié son maître, et donc il vole son maître, et c'est ce qui donne l'idée d'un intendant malhonnête. La seconde, appuyée sur une documentation abondante sur les pratiques de l'époque, donne plutôt l'interprétation qu'il prend sur le pourcentage qui lui revient pour sa gestion du bien de son maître, donc il prend sur son propre profit pour s'acheter des amis. Dans les deux cas, n'est-ce pas d'une manière soit donc subversive, d'une manière subversive par rapport aux critères de l'économie dominante ? Soit en volant la propriété du maître, première hypothèse de pourquoi il réduit sa dette, soit en rognant sur la logique de profit et de son propre profit. Voilà qui pourrait nous inspirer sur les questions écologiques. Pouvons-nous prendre les mêmes risques que ce gérant ? Puisque l'argent est une puissance qui transforme le monde, puisque l'argent a mené la planète à la catastrophe, et que nous n'avons pas le rapport de force qui nous permettrait de sortir de la domination de l'argent et du capitalisme, et sachez que je le regrette profondément, mais on n'a pas le rapport de force. Peut-on détourner l'argent pour renverser la vapeur ? Comme le gérant en fait un usage à la fois mercantile et vil, et en même temps subversif, quels seraient les usages équivalents aujourd'hui de l'argent dans nos économies pour renverser les choses sur la question climatique ? Ville et mercantile, c'est-à-dire en jouant sur le sens de l'intérêt des personnes et des entreprises. Avez-vous remarqué que depuis que le coût de l'énergie a explosé et qu'on parle de risque de pénurie, eh bien les supermarchés sont réceptifs à l'idée d'éteindre leurs enseignes la nuit et mettre la clim moins fort ? Savez-vous que la vente des voitures électriques d'occasion a explosé ? Savez-vous que celle des scooters électriques à Paris a explosé de même depuis que les deux roues à moteur à essence doivent payer leur stationnement ? Moi-même, si j'ai plus d'aides d'État, je pourrais isoler ma maison, mais il faut se dépêcher parce qu'on commence à changer les fenêtres là au 10 octobre. Manière ville et mercantile, manière subversive. C'est-à-dire en prenant, comme le fait le gérant, sur les profits ou sur la propriété, comme l'intendant, pour changer les structures de l'intérieur. Alors vous avez entendu toutes ces propositions qui sont dans le débat public. Taxer les super-profits des entreprises pétrolières pour nous aider, par exemple, à nous passer du pétrole en finançant le train ou l'isolation des bâtiments. Taxer les super-profits des supermarchés pour développer l'agriculture bio et paysanne. Ceux des transporteurs internationaux pour investir dans les circuits courts. Taxer les groupes alimentaires pour payer des fruits et légumes locaux et de qualité aux pauvres. La fameuse carte fruits et légumes que le gouvernement promet depuis... Ah, juste déjà avant la précédente réélection. Et comment rogner le capital, comme le fait peut-être le gérant ? Je sais pas. Ça, pas grand monde le propose. Hein. Nationaliser les banques pour les obliger à investir dans la transition écologique plutôt que dans les énergies fossiles. Ouais, là non plus. Je pense qu'on n'a pas le rapport de force. Plus positivement, ça peut être aussi placer son argent dans des banques éthiques, comme Oikocrédit, qui a été créé par les églises protestantes. Dans des banques éthiques qui, certes, rapportent moins, mais financent le développement écologique au nord et au sud. Faire des dons quand une paroisse ou une association cherche de l'argent pour la rénovation écologique de ses bâtiments. Alors, pour avis, la Maison Ouverte cherche en ce moment des sous pour rénover énergétiquement ses bâtiments. Donc, voilà. Ici aussi, il paraît. Donc, vous pouvez donner aux deux, il n'y a pas de problème. De cet argent, forcément injuste, qui le sera toujours, puisqu'il est cette idole qu'on appelle Mammon, oui, faire un usage à la fois vil, mercantile et subversif. Comme le défendait le théologien américain Reinhold Niebuhr à propos de la défense de la démocratie, les fils de la lumière doivent apprendre du réalisme et de la prudence des fils de ce siècle. Donc dans ce cas, aussi faire avec le sens de l'intérêt pour défendre ce qui est important. Et comme l'intendant réaliste, utiliser l'argent pour recréer l'amitié nécessaire. L'amitié avec la nature, que nous avons considérée comme une matière première, une carrière à exploiter, disait Paul Ricoeur, une décharge pour notre CO2, nos poubelles et nos déchets radioactifs. L'amitié avec les pauvres du Sud et du Nord, ainsi que les générations futures qui subiront et subissent déjà les conséquences de la crise climatique et que nous privons des mêmes opportunités de développement que nous, en tout cas suivant le même modèle. À nous, injustes, mais justifiés par Dieu, rendus justes par son amour et sa grâce, à nous d'utiliser l'argent, d'être actifs avec cet argent, impur, pour que cette nature, les pauvres, les pays du Sud, deviennent à nouveau nos amis, eux qui auraient toutes les raisons de nous considérer comme des ennemis. Amen.
Nous chantons dans les louanges et prières, le chant numéro 178, les strophes 1, 3, 4 et 6. 1, 3, 4 et 6. Je propose de vous lever pour chanter.
Bonjour à tous. Quelques annonces au nom du Conseil presbytéral de l'Oratoire du Louvre. Merci Stéphane. Trois reprises d'activité cette semaine. Mercredi, partage œcuménique. Donc Agnès Adeline Schaeffer, vous l'avez compris, est avec les enfants. Elle reprend avec le père Yves Trochéry de Saint-Eustache les échanges œcuméniques. C'est mercredi soir. Cette année, ça sera sur le livre d'Ézéchiel. Et cette semaine, c'est à l'Oratoire du Louvre, donc Salmono. Également, deux autres activités reprennent pour l'année scolaire. L'hébreu biblique, l'initiation à l'hébreu biblique avec le pasteur Gilles Castelnau, qui est là, ce qui sera samedi matin. Voilà, Gilles, merci de t'être levé. Et également, en même temps et en concurrence, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à mettre des plannings qui se séparent, il y a également la répétition avec le chœur, où vous pouvez venir à la même heure, donc vous choisissez hébreu biblique ou chant du chœur le samedi matin pour répéter les cantiques du lendemain. Voilà. Mais chanter, c'est prier deux fois, et l'hébreu biblique, je te laisse expliquer samedi prochain pourquoi plus l'hébreu que le chœur. Mais dans les deux cas, c'est très sympathique. Voilà. Ce sont les trois reprises. Cet après-midi, donc vous l'avez compris, vous restez avec Stéphane Lavignotte, le pasteur Béatrice Cléromazir. Juste après le culte, il nous présentera son dernier ouvrage. Tu confirmes ? Également, nous serons en ligne aussi. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous allons déconnecter et reconnecter 20 minutes plus tard pour pouvoir être en direct. Donc vous pouvez également suivre cette conférence en direct. Cet après-midi à 14h, nous réouvrons nos portes pour les journées du patrimoine. Nous l'avons fait hier après-midi, nous avons déjà eu à peu près 1000 visiteurs, nous attendons encore cet après-midi environ 1000 visiteurs. Ça serait vraiment très chouette de votre part, et j'insiste sur le mot chouette, que vous restiez aussi pour accueillir nos visiteurs, parler de l'Oratoire du Louvre, de votre vie de paroissien, parce qu'un développement durable... C'est durable si on le vit. Donc restez avec nous, accueillir à partir de 14h. Nous serons fermés de 13h à 14h. À partir de 14h, venez accueillir les visiteurs que nous accueillerons des deux côtés, rue de Rivoli et rue Saint-Honoré. Pour les accueillir, nous avons systématiquement des petits guides qui expliquent les grands moments de ce temple. Et également, nous avons 5 expositions cette année. 3 anciennes, mais toujours aussi intéressantes. Celle sur le monument Coligny, qui a été mis dans le jardin. Donc si vous ne la connaissez pas, venez la voir dans le jardin. Nous avons aussi une exposition sur Sébastien Castellion, toujours d'actualité. Tuer un homme, ça n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme, qui est dans la grande sacristie. Pour les enfants, une exposition sur la réforme et les enfants, qui est dans la petite chapelle, et deux nouvelles expositions. Celle qui est là, qui a été présentée hier en avant-hier en avant-première, dans le cadre de l'inauguration, merci, du jardin mémorial pour la Saint-Barthélemy, de la Saint-Barthélemy. Cette exposition a été conçue par Marianne Carbonnier-Bucard pour la SHPF et la ville de Paris. Nous sommes les premiers à la faire tourner et nous espérons qu'elle va tourner beaucoup en France. Marianne Carbonnier-Bucard sera parmi nous entre 15 et 16 heures aussi, si vous voulez plus en savoir sur cette exposition. Également, autre exposition juste en face sur les vitraux. Initiative écologique. Nous vous l'avons lancée il y a moins de 3 mois, vous expliquant, vous avez vu que les lumières étaient allumées. Et nous allumons les lumières parce que nos vitraux sont particulièrement encrassés et en très mauvais état. Nous avons eu la chance, grâce à la mobilisation de certains d'entre vous et d'un mécène, de pouvoir déjà réunir le lancement de la première phase qui démarre début octobre, de décrassage et de maintien de la structure, parce que le conservateur en chef du patrimoine a clairement expliqué que il était vraiment temps de les rénover, de les restaurer, de les consolider. Donc vous avez une exposition qui vous explique exactement où nous en sommes et qui vous donne les photos vitrail par vitrail de ce qu'il y a à faire. C'est le moment de l'offrande. Non, pardon, j'ai oublié. Dorothée, qui est conseillère presbytérale et également conseillère de l'entraide, rappelle que la garderie est ouverte tous les dimanches d'éveil biblique. Et par la même occasion, si vous êtes parent, ça serait également bien que vous puissiez prendre un dimanche d'éveil biblique pour aussi aider à garder les tout-petits de 3 à 5 ans. Donc ça, dernière annonce. C'est le moment de l'offrande, vous avez compris. On est tous très impurs, mais purs aussi. Et donc on peut investir dans des églises, on peut investir dans une théologie, qui est la théologie que nous défendons depuis bien longtemps à l'Oratoire du Louvre, qui est une théologie libérale, inclusive. Donc vraiment, nous avons deux types de dons. Aujourd'hui, le don joyeux, celui qui donne de la joie. Et pour les vitraux, c'est la fondation de l'oratoire, donc ça n'est pas la même caisse, c'est important, mais nous l'avons appelé le don lumineux. Voilà, aujourd'hui c'est le don joyeux. Merci beaucoup.
Seigneur, tu nous accueilles tels que nous sommes. Tu prends l'argent tel qu'il est. Tu reçois notre don tel que nous avons pu le donner ce matin. Merci de le laisser à ton Église pour qu'elle annonce ta parole et prépare ton royaume. Merci de nous inspirer toutes sortes de dons, des regards aux mots d'amour dans les jours et les semaines qui viendront. Amen. Nous voulons maintenant présenter devant le Seigneur les situations du monde, pas pour l'alerter dessus, il est au courant, il a la télévision lui aussi, mais pour soutenir celles et ceux qui y sont engagés, pour nous soutenir les uns les autres dans nos engagements, pour avancer dans l'amour du prochain, qu'il soit prochain humain ou non humain. Pour la paix du monde et la libération de tous les humains et de la création, pour l'intégrité de la vie politique, pour la justice dans la société, pour la confiance et l'amour entre tous les vivants, humains ou non humains, créés à ton image et appelés à ton royaume. Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux qui gagnent avec peine leur pain quotidien, pour celles et ceux qui sont privés de travail ou de ressources, pour celles et ceux que la maladie ou les infirmités empêchent de travailler, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à payer leurs factures énergétiques et qui auront de toute façon froid l'hiver prochain, pour celles et ceux qui ont tout perdu ces dernières semaines et ces derniers mois dans les débuts du dérèglement climatique. Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux qui n'ont pas de famille ou pas d'abri, qui souffrent de leur solitude, de leur abandon ou du deuil, qui ont fui leur pays pour des raisons économiques, politiques ou climatiques, pour celles et ceux qui sont opprimés, calomniés ou exilés, Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux qui sont désespérés ou révoltés, qui sont tourmentés par le doute, qui sont rongés par l'inquiétude du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la lumière de ton évangile, Seigneur, nous te prions. Et ensemble, nous disons la prière que ton Fils nous a laissée. Je propose de vous lever. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la fin de l'évangile de Marc, Jésus dit à ses disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création, pas seulement aux humains, à toute la création. Jésus nous envoie dire la bonne nouvelle à toutes les créatures. Dirons-nous au soleil que nous ne voulons plus de ses rayons et que nous préférons ceux des UV en cabine? Dirons-nous à l'atmosphère que nous ne nous soucions ni d'elle, ni du rôle que Dieu lui a assigné et que nous continuerons à la déstabiliser en l'intoxiquant avec le gaz carbonique de nos moyens de transport? Dirons-nous à la nuit et à la lune que le temps de repos qu'ils nous offrent ne nous intéresse pas et que nous continuons à travailler ou à faire travailler la nuit? Dirons-nous à notre frère, à notre sœur différent de nous, que nous savons mieux que Dieu comment il aurait dû les créer? Jésus nous envoie annoncer à toute la création la bonne nouvelle de la libération de l'esclavage économique, politique, de l'esclavage des jugements, des normes et des modes. Jésus nous envoie annoncer que la mort a été battue et qu'elle n'a plus le dernier mot, que chacun qui se croyait mort va revivre à la suite de Jésus qui est mort et ressuscité. Sachez accueillir et partager et annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Des petits grains de sable au grand fleuve, en n'oubliant jamais vos sœurs et frères. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et de son Fils Jésus le Messie soient avec vous, en tout temps, en tout lieu, et de bien des manières inattendues et souvent déroutantes. Amen.
Et pour mémoire, Béatrice l'a annoncé, n'oubliez pas qu'à 17h, donc c'est Aurélien Peter qui donnera un concert d'orgue pour nous démontrer...